Alors, est-ce que votre foi, si vous êtes chrétien, est-ce que votre foi se voit? Si vous n'êtes pas chrétien, est-ce que vous êtes capable d'identifier les chrétiens autour de vous? Est-ce que vous trouvez que la foi chrétienne se voit? Donc, si vous êtes chrétien, posez-vous la question pour vous-même. Si vous n'êtes pas chrétien, posez-vous la question pour les gens que vous connaissez. Dites-vous, celui-là, il me semblait qu'il est chrétien. Mais est-ce qu'il est vraiment différent des autres? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il y a une différence dans sa vie quotidienne? Bon, c'est une question difficile, hein, à se poser. Moi, le premier, si je me pose la question, je me retrouve un petit peu humilié. Je me dis, bon, les gens qui me croisent dans la rue, ils savent pas que je suis chrétien, c'est pas marqué là sur mon front. Et a priori, en tout cas, pendant les premiers instants où l'on rencontre quelqu'un, ça se voit pas forcément tout de suite que quelqu'un est chrétien. Mais de façon plus large, plus globale, ce qui est peut-être un peu plus troublant, c'est de constater que parfois la vie des chrétiens ressemble beaucoup à celle des non-chrétiens. Pour ce qui concerne les valeurs, les priorités, le comportement, la façon dont on utilise notre temps, notre énergie, notre argent, etc., etc. Et là, vous vous dites, bon, on va encore avoir droit à une prédication très moraliste, et on va partir tout à l'heure, on va être découragé, il nous aurait fait la leçon pendant 25 minutes sur le fait qu'il faut vraiment obéir à Dieu et qu'il faut que ça se voit chaque jour, à chaque moment de la journée. Puis je suis vraiment pas capable, je vais pas y arriver. Rassurez-vous, j'espère que c'est pas l'impression que vous allez avoir à l'issue de ce message. Parce que je pense que la question qui est soulevée et qui est sous-jacente au texte qu'on va lire, qui est pas forcément évidente lorsqu'on lit le texte, c'est la suivante. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vie d'un chrétien devrait être différente. La vie quotidienne d'un chrétien devrait être différente de la vie d'un non-chrétien. Et parfois, on n'est pas exactement sûr ce que ça veut dire. Mais surtout, on se dit, mais d'accord pour faire un effort, mais est-ce qu'il est possible de faire un effort et de le faire avec joie et pas sous la contrainte? Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie quotidienne différente de celle d'un non-chrétien et que ce ne soit pas une terrible corvée pour nous en tant que chrétiens de devoir vivre selon certaines exigences? Est-ce que c'est possible de le faire cela, de chercher Dieu chaque jour, mais de le faire avec joie, de le faire dans la bonne humeur, de le faire parce qu'on a vraiment envie au fond, de le faire en étant encouragé et pas de le faire à contre-cœur, pas de le faire seulement par un sentiment d'obligation. Est-ce que c'est possible? Je vous rappelle que dans ce psaume 84, qu'on lit et qu'on étudie depuis 3 semaines maintenant, on a vu que ce psaume était vraisemblablement chanté par les Israélites il y a très très longtemps lorsqu'ils partaient en voyage, en pèlerinage, pour se rendre au temple de Jérusalem pour y rendre un culte à Dieu. Et on l'a appelé ce chant le chant du pèlerin. On a vu aussi que, notamment Saint Augustin, mais d'autres ont comparé la vie des hommes à un pèlerinage. On est des êtres en mouvement, en voyage d'un point à un autre. Et on s'est posé la question dans un premier temps, mais quelle est la destination vers laquelle on devrait tendre? Et on a vu dans un premier temps que le psalmiste, ce qu'il recherche au plus profondément de lui-même, ce qu'il recherche, c'est d'être dans cette relation personnelle, perpétuelle, avec Dieu. Et on a vu, premièrement, première strophe de ce psaume, que l'homme est fait pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans la deuxième strophe, on s'est posé la question de la détermination du pèlerin. Comment on fait pour continuer quand le chemin est difficile, quand on est fatigué, quand on est éprouvé? Comment on fait pour continuer? On avait vu que le psalmiste avait cette conviction, cette espérance, par rapport au fait que Dieu avait garanti l'arrivée à destination. Et que la marche chrétienne, c'est pas comme faire du stop, c'est plutôt comme prendre le train, avec toute la fiabilité de la SNCF, n'est-ce pas? On monte à un moment donné et on sait où est-ce qu'on arrive au bout. Et avec Dieu, c'est comme ça. Il nous préserve, même au travers des épreuves, il nous préserve, il nous garde une place pour nous dans sa maison. Tout ça en vertu de Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous, pour les croyants, pour nous débarrasser de tous les obstacles qu'il y avait à notre relation avec Dieu. Il l'a fait par sa mort et sa résurrection. On a donc parlé de la destination du pèlerin, on a parlé ensuite de la détermination du pèlerin, et ce soir vous allez voir que cette strophe parle de la direction du pèlerin, c'est-à-dire la question pourrait être la suivante. Bon, le pèlerin, il sait où il veut aller et il sait qu'il va y aller. Mais maintenant, est-ce que son voyage ressemble à celui de n'importe qui d'autre? Comment ça se passe au quotidien? Quelle direction suivre? Et ce que dit le psalmiste ici, vous allez voir, Son psaume est structuré en trois strophes, on l'a déjà dit, et dans chacune des strophes, il y a comme une béatitude. La première, c'était « Heureux ceux qui habitent ta maison ». On voit le désir du psalmiste d'habiter la maison de Dieu, d'être en relation personnelle avec lui. Deuxième strophe, « Heureux les hommes dont la force est en toi ». On avait vu que les croyants, c'est des gens qui avaient leur vie radicalement dont la vie était radicalement conditionnée par Dieu. Et troisième béatitude, on la trouve tout à la fin, vous allez voir, « Heureux l'homme qui se confie en toi ». Et celui-là qui se confie en Dieu, c'est celui, dit le psalmiste, qui marche dans l'intégrité. Est-ce que c'est possible de faire ça au quotidien en tant que chrétien? Marcher dans l'intégrité, chercher Dieu de tout son cœur chaque jour? Eh bien, j'espère que vous allez voir que c'est possible et qu'on peut le faire avec beaucoup de joie. Lisons d'abord le texte et ensuite on regardera tout ça dans le détail. Je vais lire le psaume en entier, comme ça on se souviendra un peu de ce qui a déjà été dit. Psaume 84. Au chef de chœur sur la guittite. Psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Pause. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Et maintenant la troisième strophe. Toi, qui est notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Prions avant d'aller plus loin. Merci beaucoup Seigneur pour ta parole. Par elle, tu comptes nous instruire, tu comptes fortifier notre foi. Et ainsi nous te demandons de bien vouloir faire cela encore cet après-midi sous l'effet de ton Saint-Esprit. Et au nom de Jésus. Amen. Alors un vrai croyant, c'est quelqu'un qui cherche à suivre Dieu au quotidien et qui le fait avec joie. Un vrai croyant, on le sait déjà, d'après la première et la deuxième strophe, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, c'était la leçon de la première strophe, et c'est aussi quelqu'un dont la vie est radicalement conditionnée par Dieu, c'était la deuxième strophe. Maintenant, nous allons voir que le vrai croyant, c'est celui qui cherche à suivre Dieu au quotidien et qui le fait avec joie. Alors, il y a une affirmation ici sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Pour commencer, c'est celle qui est au verset 11. On reviendra au verset 10 dans un petit moment. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » En fait, cette affirmation, on la connaît sans doute certains d'entre nous par cœur. On l'a beaucoup entendue. Et du coup, on a tendance à la banaliser, cette expression, cette affirmation. Pourtant, il faut y songer un petit peu. Il n'y a pas là d'exagération, hein. Un jour, dans les parvis de Dieu, vaut mieux que mille ailleurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte que mille jours, c'est presque 3 ans, un jour auprès de Dieu, ça vaut mieux que 2 ans et demi, disons, d'existence par ailleurs. Et quand on dit ça, ça peut paraître, exagéré. Mais en réalité, il n'y a rien de choquant là, il n'y a que de la logique pure. Être en présence de Dieu, ça vaut forcément mieux que n'importe quoi d'autre, on est d'accord? Donc il ne faut pas banaliser cette expression. Au contraire, il y a là une vérité profonde. Pourquoi est-ce que c'est si logique? Mais parce que Dieu, s'il est vraiment Dieu, il est notre créateur, nous sommes ses créatures, et il n'y a rien de mieux pour une créature que d'être en lien avec son créateur. Il n'y a rien de mieux pour nous que d'être en lien avec Dieu, puisque si nous sommes réellement les créations de Dieu, nous ne pouvons pas être heureux si nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Ce que le psalmiste est en train de dire, c'est qu'un jour dans les parvis de Dieu, c'est-à-dire un jour avec Dieu, Puisqu'il y a là le bonheur, ça vaut mieux que 1000 jours ou même 10 000 jours ailleurs, parce que là, il n'y a pas le bonheur. Donc si on croit en Dieu, ça d'abord, c'est une évidence normalement. Hein. Si on croit qu'il y a un Dieu, on ne peut pas trouver le bonheur ailleurs qu'en connaissant Dieu. C'est logique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz tout à l'heure à l'issue du culte et on pourra en discuter. Le psalmiste, dans d'autres passages des psaumes, dit des choses comme « Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux, heureux, heureux. Heureux ceux qui cherchent Dieu au quotidien. Heureux ceux qui marchent selon Dieu. » Puisqu'il est notre Créateur, il sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. Et on suit ses indications si on croit que Dieu existe et qu'il nous a donné des indications. Quand vous vous rendez chez quelqu'un et vous n'avez jamais été chez cette personne vous dit « Rendez-vous demain chez moi à midi, on va manger ensemble. » Il vous donne des indications pour venir. Quelle est la chose la plus logique à faire le lendemain quand vous voulez aller chez lui? Suivre ses indications, on est d'accord? Alors nous, les hommes, on n'est pas très logiques. Souvent dans ces circonstances-là, nos femmes sont bien plus logiques que nous et raisonnables. Nous, on est orgueilleux. Alors on se dit, mais les indications, c'est utile, mais j'en ai pas besoin. Je vais bien trouver le chemin, je connais la région, c'est bon. Et puis qu'est-ce qui se passe d'habitude? On perd du temps, on gaspille de l'essence, on se dispute dans la voiture. Finalement, on finit peut-être par céder au conseil de notre épouse. D'accord, je vais consulter les indications. Et finalement, on arrive peut-être à la bonne destination. Et de la même façon, avec le Seigneur, on agit pareil, on est orgueilleux. On n'a pas envie de suivre les indications. On se dit, oui, je crois en Dieu. Oui, je crois sans doute que c'est bien de le connaître. Et peut-être d'aller au paradis. Et peut-être d'avoir la vie éternelle. Tout ça, c'est bien. Mais je vais me débrouiller tout seul pour y arriver. Je vais trouver le chemin tout seul. Et même en tant que chrétien, vous savez, des fois, on a ce comportement malgré nous. Oui, Dieu nous a livré plein d'indications précieuses, mais bon... J'ai d'autres choses à faire ces jours-ci que de les consulter. Je vais me débrouiller tout seul aujourd'hui. Je vais bien y arriver. Vous savez, cette attitude-là, bien sûr, ne vient pas de Dieu. Elle procède de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre désir d'indépendance, de notre désir d'autonomie. Et en fin de compte, la Bible appelle ça le péché. Cette attitude d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a fait la grâce de nous livrer les instructions. Et nous devrions logiquement les consulter. Il y a une statistique là qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai découvert ça, c'est que les Français passent en moyenne plus de 3 heures par jour devant la télé. Plus de 3 heures par jour, donc dans une journée il y a 24 heures, ça fait un huitième de la journée. Donc un huitième de la vie devant la télé. Et si on passait un huitième de notre vie à lire la Bible, plutôt, ça serait pas mal, hein? Non. Non, parce que on préfère se débrouiller tout seul. Un jour auprès de Dieu, un jour à le chercher, ça vaut mieux que 1000 à faire autre chose. Alors, on est peut-être d'accord pour dire que c'est logique. Si Dieu existe, ce sont ces instructions qui sont, si j'ose dire, la recette du bonheur pour l'être humain qui est sa créature. C'est logique. Pourquoi donc, alors, cherchons-nous et recevons-nous nos directions pour la vie de tellement d'autres sources d'informations que de la Sainte Bible? Pourquoi? Le psalmiste nous met sur la voie, en fait. Lorsqu'il dit au verset 12... Lorsqu'il dit que Dieu, l'éternel Dieu, verset 12, est un soleil. Alors, dans le contexte du pèlerin qui se rend à Jérusalem, le soleil, c'est plutôt bien, et puis c'est plutôt pas bien. C'est plutôt bien parce que ça éclaire le chemin. Mais c'est plutôt pas bien parce que le soleil, il tape, il brûle, il éprouve, il éblouit. Et les pèlerins qui montent à Jérusalem en font la rude expérience. Et quand ils chantent « L'Éternel, Dieu est un soleil », ils sont en train de transpirer sous l'effet de ce soleil qui rayonne. Et c'est une image de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, et parce qu'il est parfait, il est forcément, c'est obligé, il est exigeant dans ce qu'il demande. Il est exigeant dans sa loi. Et cette exigence-là de Dieu, elle resplendit de tout son éclat au travers de sa parole, que sont les saintes Écritures. Vous savez que la Bible contient plus de 6400 commandements pour un total de 31 000 versets, ce qui représente environ un cinquième de la Bible. Donc un cinquième de la Bible, ce sont des commandements, ce sont des exigences, des impératifs. Et quand on cherche Dieu, et quand on va prendre le temps, admettons 3 heures par jour, plutôt que de regarder la télé, 3 heures par jour à lire la Bible, eh bien on va passer un cinquième du temps à lire des commandements, des ordres que Dieu nous donne. Nous allons découvrir les exigences de Dieu. Et quand on cherche Dieu comme ça, on s'expose par nécessité à sa sainteté. On s'expose à sa loi parfaite, on s'expose à sa justice, et c'est éprouvant. C'est difficile. Ça brûle et ça éblouit. On en parlait cette semaine avec Sephora, il y a des jeux qui se jouent en plein air, mais dans le noir, d'accord, où le but est d'aller soit d'infiltrer une équipe adverse sans se faire voir pour attraper des gens, ou attraper un drapeau, ou une mascotte, ou quoi que ce soit. On a tous les participants à ces jeux ont une lampe de poche, mais si vous utilisez la lampe de poche, vous pouvez mieux voir devant vous, mais vous pouvez aussi être mieux vu des adversaires. C'est à double tranchant, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on marche à la lumière de Dieu, il y a des bienfaits, il éclaire notre chemin, mais il nous éclaire nous aussi, et nous sommes vus sous la lumière de Dieu comme nous sommes vraiment, tels que nous sommes vraiment, et en fait, c'est pas agréable. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est s'exposer à la lumière de sa sainteté. Voici ce que dit l'apôtre Jean, pour expliquer pourquoi on n'est pas enclin à faire cela. Pourquoi on n'est pas enclin à lire la Bible 3 heures par jour. Écoutez pourquoi. « Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. » Au psaume 139, le psalmiste, il cherche à se dérober à la vue de Dieu. Il aimerait se cacher dans les ténèbres, au fond de l'océan. Il dit « Mais non, je ne peux même pas me cacher là parce que Dieu, il voit tout. Il est partout. » Et c'est là la difficulté, le dilemme, la tentation. On a envie de se dérober à la vue ou au regard de Dieu. Est-ce qu'il vaut mieux marcher à la lumière de Dieu et se retrouver coupable devant les exigences de sa sainteté? Ou bien vaut-il mieux se cacher, comme dit le psalmiste, sous les tentes de la méchanceté? Les Israélites qui font ce pèlerinage pour aller à Jérusalem, ils étaient certainement tentés de faire pareil, de façon, si j'ose le parallèle. C'est-à-dire, ils vont au temple, ils savent que c'est bien d'aller rendre un culte à Dieu, mais c'est fatigant. Allez, plutôt que de refaire encore une journée de marche, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas juste là, sur le bord du chemin, sous la tente de la méchanceté, ou la tente de la paresse? On est un peu mieux, on pourra boire un coup, discuter, puis c'est pas si grave si on va pas au temple. Vous voyez, le psalmiste, là, il a fait son choix. Hein. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, c'est-à-dire j'ai choisi d'aller au bout du voyage. J'ai choisi d'être fidèle chaque jour de mon voyage, j'ai choisi de continuer ma route, plutôt que de m'arrêter, de faire une pause sous la tente, sous les tentes de la méchanceté, verset 11. Et comme dans le texte que je lisais tout à l'heure, c'était aussi un peu le dilemme auquel l'apôtre Paul a fait face. Hein. Il reconnaissait que c'était... il a reconnu que c'était difficile de constater, à la lumière de Dieu, de sa sainteté, de constater l'étendue du péché dans sa propre vie. Encore une fois, on parle de Saint Paul, le grand apôtre Saint Paul, qui dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » Ça, c'est la lumière de Dieu qui brille en son être et qui lui donne cette lucidité sur lui-même. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et c'est pas agréable à faire comme expérience ça, mais c'est ce qui arrive quand on marche à la lumière de la sainteté de Dieu, quand on cherche Dieu de tout son cœur, jour après jour, au quotidien. Mais donc, je le disais, le psalmiste, lui, il a fait son choix. Même si c'est pas agréable de marcher sous le soleil, il continue. Pourquoi ? C'est là qu'on va répondre à la question du départ. Est-ce que c'est possible de chercher Dieu chaque jour, de chercher à suivre Dieu chaque jour et de le faire avec joie ? Parce que pour l'instant, c'est pas très joyeux ce que je dis. Hein. Pour l'instant, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Eh bien, on a vu que chercher à suivre Dieu, c'était logique. On a vu que chercher à suivre Dieu, c'était dangereux. Troisièmement, chercher à suivre Dieu, c'est salutaire. L'espérance du psalmiste, dans ce texte, repose sur une affirmation. La deuxième partie, en fait, d'une affirmation dont j'ai lu le début, qui se trouve au verset 12, où il dit « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Il est un soleil et un bouclier. Alors, le psalmiste, il a conscience que de lui-même, il ne peut pas marcher dans l'intégrité. Il a conscience que de lui-même, il ne peut pas être fidèle à chaque étape de son voyage. Il a conscience que si ça ne tenait qu'à lui, il s'arrêterait sous les tentes de la méchanceté. Il se mettrait à l'ombre sous les tentes de la méchanceté. Il a conscience que Dieu est un soleil qui brûle et qui ne peut pas se tenir devant Dieu sans être brûlé, sans être dévoré par ce feu, le feu de sa sainteté. Et donc le seul bouclier capable de le protéger d'une telle luminosité, d'un tel feu, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il dit Dieu est un bouclier, est un soleil, mais il est aussi un bouclier. Heureusement qu'il y a la deuxième partie de cette phrase, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas seulement un feu dévorant, il est aussi un bouclier invulnérable. Le seul bouclier dont la force de protection soit proportionnelle à sa propre sainteté. Il y a quelques années, on a appris que l'équipe de Formule 1 McLaren avait été trouvée coupable d'espionnage chez l'équipe adverse Ferrari. Alors, il faut savoir que Ferrari, ils gagnaient tous les grands prix. L'équipe Ferrari, enfin les voitures Ferrari. Et McLaren, ils n'arrivaient pas à faire aussi bien. Alors ils se sont dit, bon, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'espionner Ferrari, parce que la seule façon d'être à la hauteur, la seule façon d'avoir des ressources proportionnelles aux leurs, c'est si on a leurs propres ressources. Ils ont triché, parce qu'ils n'étaient pas capables de rivaliser. Et nous, devant Dieu, bon, on ne peut pas tricher. Mais on peut faire le même constat en tout cas. On n'est pas capable de rivaliser. Et en fait, rien ni personne n'est capable de rivaliser avec la sainteté de Dieu. Et donc, si on a besoin d'une protection, si on a besoin d'être couvert pour pouvoir s'approcher de Dieu sans être brûlé par sa sainteté, il faut forcément, logiquement, inévitablement, que Dieu lui-même pourvoie à cette protection. Que Dieu lui-même soit ce bouclier. Et c'est par la venue de Jésus qu'on voit en quoi Dieu est réellement ce bouclier qui nous protège de sa propre sainteté. Le psalmiste, il compte sur les promesses de Dieu. Il connaît bien les promesses de Dieu. C'est notamment en s'appuyant sur les promesses de Dieu qu'il a trouvé, rappelez-vous, sa détermination dans son voyage. Il va aller jusqu'au bout. Il dit qu'il se présentera devant Dieu à Sion. Il en est sûr. Dieu a promis qu'il le garderait, qu'il le préserverait, qu'il garderait son âme. Il a conscience de la sécurité que Dieu lui offre par le moyen de sa foi. Il sait que Dieu a promis de faire tout ce qu'il fallait faire pour que sa relation avec Dieu sa relation personnelle avec Dieu. Il comptait sur les promesses que Dieu avait faites à Moïse, à David, et il savait qu'un jour, une personne viendrait que l'Ancien Testament nomme le Messie et qu'il accomplirait tout ce qu'il faudrait faire pour que les hommes puissent avoir cette relation avec Dieu, pour qu'ils soient réconciliés avec lui. Et donc je disais que c'est par la venue de Jésus que Dieu a été ce bouclier, qu'il a montré qu'il était non seulement un soleil, mais aussi un bouclier. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ça, c'est une allusion à Adam, le premier homme qui a péché, qui a entraîné toute l'humanité dans sa chute. Il ajoute ensuite, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et là, c'est une allusion à Jésus. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce passage-là, c'est que Jésus est venu pour remplir complètement les exigences morales de Dieu. Jésus est venu de Dieu, il est devenu un homme, et en tant qu'homme, il a rempli toutes les exigences de Dieu, sans aucune exception, de sorte que Jésus, lui, bon, il venait de Dieu, Mais en tant qu'homme maintenant, il peut retourner à Dieu et se présenter dans tout l'éclat de la sainteté de Dieu sans être brûlé. D'accord ? Mais le reste des hommes, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que nous, on est attaché à Adam. On est représenté par Adam et on est couvert par une sorte de culpabilité qui est celle de tous les hommes parce que nous sommes des êtres déchus. Mais voilà où se trouve la grâce de Dieu. C'est que Dieu nous propose d'être attaché, plutôt qu'à Adam, d'être attaché à Jésus. Et cela par la foi. De sorte que si Jésus s'approche de Dieu sans être brûlé, tous ceux qui sont cachés en lui par la foi peuvent aussi le faire et s'approcher de lui. Comment ça se passe ? Dieu, la parole de Dieu dit que si nous plaçons notre confiance en Jésus, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont couverts, Dieu ne voit plus notre péché, et à la place de notre péché, il nous a mis sur nous la justice de Jésus, son obéissance. La Bible dit que cette obéissance de Jésus nous a été imputée, c'est une transaction légale, juridique, nous devenons aux yeux du juge souverain des personnes justes à ses yeux, justes de la même justice que celle de Jésus-Christ. D'accord ? C'est incroyable. Et Jésus a payé le prix pour que cela soit possible. Il a vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu et il est mort d'une mort parfaite sur la croix. Et ensuite, il est ressuscité. Si nous sommes attachés à lui par la foi, tous les bienfaits que Jésus a acquis par sa venue et par son œuvre nous sont communiqués. Dieu est notre bouclier. Il a pourvu à notre protection par rapport à sa propre sainteté. Il a accompli à notre place, en Jésus, ce qui nous était impossible de faire, c'est-à-dire obéir parfaitement à ses exigences. En cédant notre vie à Jésus, nous pouvons alors nous tenir avec assurance dans la lumière de Dieu, sans être brûlés, parce que Dieu a mis à notre compte l'obéissance parfaite de son Fils. Et ça veut dire qu'on peut lire la Bible de façon différente. On peut la prendre en main sans être brûlé. On peut la lire ces milliers de commandements sans transpirer, sans que cela constitue une pression sur nous ou une tyrannie sur nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on n'a pas Jésus, on lit ça et on se dit « Mais oh, quel malheur ! C'est tyrannique, c'est horrible ce que Dieu attend de moi, je ne serai jamais capable !» Mais si on est à Jésus, si on est attaché à lui, ça change complètement le point de vue, non ? Sur les mêmes textes. Là, on peut dire, mais Jésus accomplit ça pour moi. Jésus marche devant moi, je suis caché en lui. C'est plus du tout une tyrannie. Ce sont toujours les instructions de Dieu. Mais ce ne sont plus des instructions tyranniques. C'est plus une loi qui nous écrase. C'est vraiment une lumière qui éclaire notre chemin. C'est plus un soleil de plomb. Mais on marche sous l'ombre du bouclier de Dieu. Ça change tout. On peut alors chercher à suivre Dieu au quotidien, avec joie, sans crainte, sans pression, sans découragement, mais avec joie. C'est encore avec Sephora que je discutais et qui parlait du défilé du 14 juillet. Et donc, j'ouvre juste une parenthèse. Demandez à Sephora de vous montrer la photo de quand elle a défilé avec les pompiers. Mais au défilé du 14 juillet, les gens qui défilent sont censés marcher au pas. Et puis, quand on regarde le défilé de Paris, tout le monde marche au pas, c'est super bien réglé. Mais bon, dans les petites bourgades de province, c'est pas toujours super bien réglé. En tout cas, Sephora me disait, si j'ai bien compris, que ceux qui marchent devant, ça va, c'est bien réglé, mais ceux qui marchent derrière, déjà, c'est plus très bien réglé avec le reste. Merci Sephora, parce que c'est une super illustration pour la vie chrétienne. Parce que quand on n'est pas attaché à Jésus par la foi, on marche en première ligne. Et on doit marcher au pas. C'est ce que Dieu nous demande. Marche au pas. Tiens, t'as 6400 commandements, vas-y. On peut pas. La pression est insupportable. Mais quand on est chrétien, c'est Jésus qui marche en première ligne. Et il le fait parfaitement. Et nous qui marchons à sa suite, on est cachés derrière lui. Alors, si on ne marche pas exactement au pas, ce n'est pas grave. On n'a plus cette pression. Et pourtant, on cherche quand même à marcher au pas. Mais ce n'est plus du tout la même pression. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est ça la différence entre lire les exigences de Dieu quand on est chrétien et les lire quand on n'est pas chrétien. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, dit Paul. Quand on est attaché à Jésus par la foi, on peut chercher de tout son cœur les voies de Dieu, chaque jour. On peut marcher à sa lumière en permanence sans être brûlé, parce qu'on repose en même temps à l'ombre de sa grâce. Et notre vie, quand on fait ça, en fin de compte, ne ressemble pas à la vie d'un non-chrétien. Paul dit aussi, je finirai avec ça, que quand on est un chrétien, c'est ce que je disais tout à l'heure, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais en plus Dieu nous remplit de son esprit. Et par son esprit, Dieu nous remplit d'une puissance en fait, de sa puissance. Et cette puissance, il la déploie dans notre vie, pour nous faire marcher à sa suite justement. De sorte que même quand on pêche, même quand on tombe, même quand on désobéit à Dieu, il ne nous abandonne quand même pas, il déploie cette puissance pour nous corriger, mais aussi pour nous relever, pour nous consoler et pour nous remettre en route. C'est un esprit d'adoption, dit Paul. Nous pouvons donc chercher Dieu chaque jour de notre vie, avec joie, comme des enfants qui cherchent leur papa. Nous lui sommes attachés de ce lien indéfectible, qui est un lien filial. Dieu, notre Père, ne va pas abandonner ses enfants. Nous pouvons donc étudier sa parole, vivre à sa lumière sans être perpétuellement dans la crainte et le désespoir face à l'étendue du péché dans notre vie. Dieu a fait de nous ses enfants. Des enfants en croissance, à différents niveaux peut-être de croissance. Et c'est pour ça, et je termine là-dessus, c'est pour ça qu'au verset 10, le psalmiste demande à Dieu non pas de regarder à lui-même, mais de regarder la face du Messie. Pour le psalmiste, quand il écrit ce psaume, il a sans doute conscience, je le disais tout à l'heure, que Dieu va envoyer le Messie par excellence, personnage de la descendance d'Abraham et de David, qui va régler une fois pour toutes le problème du péché. Mais au moment où il écrit ce psaume, le Messie n'est pas encore venu. Pour le psalmiste, le Messie, c'est le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, je ne vais pas entrer dans tous les détails, on n'a plus le temps, mais c'était quelqu'un qui agissait un peu comme les prophètes et les prêtres, qui agissait aussi comme un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et le peuple. Et c'est pour cette raison que là, le psalmiste dit « Seigneur, ne regarde pas à moi, mais regarde à ton serviteur, le Messie, qui me représente auprès de toi. Si tu regardes à moi, Seigneur, tu vas voir qu'il n'y a rien, enfin j'ai aucun espoir, quoi. Mais je suis caché derrière le Messie, derrière celui que tu as placé, Seigneur, pour être le représentant du peuple. Et bien sûr, que cela s'accomplit parfaitement à la personne de Jésus. Il est le meilleur Messie, n'est-ce pas? Le meilleur roi, le meilleur prêtre, le meilleur prophète. Il accomplit toutes ses fonctions parfaitement et il nous représente par conséquent parfaitement auprès de Dieu. C'est pour cette raison que chaque jour, on devrait se lever le matin et je dirais même avant de lire la Bible, on devrait dire à Dieu « Toi qui es mon bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. » Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour ce texte qui nous montre quelques enjeux de notre existence en tant qu'être humain sur cette planète. Aide-nous à être persuadés jour après jour que nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec toi. Que nous sommes heureux lorsque notre vie est radicalement conditionnée par toi et que nous pouvons marcher à ta lumière et te chercher à suivre tes voies chaque jour avec joie et pas dans la crainte. Aide-nous, s'il te plaît, à être persuadés de ces vérités sous l'effet de ton esprit. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.